de leur réveilleur Zinchal. Boisé sur le slide, la musique de Zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Salut, c'est Geneviève et Ève. Joignez-nous un dimanche sur deux à partir du 26 septembre de 20h à 21h pour notre émission 10 entre nous. On va vous amener faire un petit tour dans notre nostalgie des années 2014 à 2020.
10 entre nous veut dire 10 années qui nous séparent. Ève a 21 ans et moi j'ai 31 ans. On veut vous partager ce qui nous allumait pendant 7 années de notre vie selon l'âge qu'on avait, notre expérience et la musique qu'on écoutait. Manquez pas ça!
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Shiz 94.3 ou au www.shiz.ca. À bientôt!
Oh man! Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi ça, l'ère du progrès? Moi, j'en reviens pas. Il va pas... Il y en a plus d'ère du progrès. C'est fini, l'émission.
C'est fini.
C'est fini, ou du moins pour un moment. On a fait le tour du prog. On a fait le tour du progrès.
Merci
à Justine pour cette émission.
Ça coupe, c'est fini.
Ça coupe, c'est fini?
C'est le progrès...
Plus de progrès, même.
Le progrès est mort.
Ah, man, c'est pas le fun d'entendre ça. Surtout aujourd'hui, là. Je vais vous dire, vous êtes à Radio Révolution. C'est l'émission de la semaine au Shiz 94.3. Il est 22h le mercredi, comme vous êtes au courant. Et nous sommes à l'émission de la semaine et nous avons comme invité monsieur...
Salut, c'est moi.
Charles.
C'est moi, l'invité, Charles Dubois.
Ouais, Charles Dubois. Bonjour, Charles. Je connais Charles de mon cours de philosophie de l'éducation et de apprentissage et cognition. Fait que nous autres, là, on connaît ça, là...
Gros cerveau.
Apprendre. gros cerveau, je sais pas.
C'est général, ça. Mais c'est ça, en gros, on s'est rejoint dans deux matières de l'apprentissage.
Puis deux cours complètement différents. Le premier, apprentissage et cognition, c'est un cours incroyable avec... Genre, j'ai jamais vu une classe fonctionner comme ça. Le monde, ça jase en classe, ça participe, ça fait des exposés oraux. C'est super actif et pertinent. Puis l'autre cours.
Il y avait un cours en ligne, probablement filmé en 2004 et repassé en continu sur des disquettes. Mais pourtant, deux cours pas incompatibles dans leur courant de pensée. Parce que l'un peut alimenter l'autre.
Pas du tout. Non, c'est ça.
Bravo, shout-out au bac en enseignement au secondaire pour bien faire, des choses concrètes.
Mais cependant, j'aimerais que philo de l'éducation, ce soit first en présentiel, mais aussi que ce soit un cours obligatoire. Parce que là, c'est un cours option. Tu peux en prendre un autre,
option.
Mais quoi qu'il faut que tu choisisses entre ça, morale, quelque chose, et philosophie.
OK.
Je pense...
Pas l'autre option, en fait. Ça se rattache à peut-être que des philosophes et des moralistes vont venir me corriger, mais la morale se rattache à la philosophie.
La philosophie de l'éducation, je trouve que c'est une partie essentielle de l'enseignement, là, que tout enseignant devrait passer par ce cours-là.
Oui, dans un certain sens, il faut que tu saches pourquoi vouloir enseigner pour enseigner.
Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que ta fonction représente?
Les grands fondements de, la raison de.
Ouais.
C'est une bonne chose. Puis très bon cours.
Ouais, c'est ça, mais j'aime vraiment ça, mais je trouve que ce qui manque, c'est qu'on n'est pas à côté des élèves, puis on n'a pas un prof en avant de nous. Je trouve que c'est crucial de juste pouvoir, pendant la pause, dire « Hey, ça n'a pas de sens ce que le prof a dit », ou dire « Hey, moi, je suis tellement d'accord, ça va être ça le changement et le futur de demain ».
Mais je suis d'accord que le cours, tu sais, pourtant le cours est un peu construit à amener matière à débat, et il n'y a aucune connexion, aucune argumentation, en fait, c'était seulement derrière toi, c'est toi devant la chargée de cours, et encore là, la chargée de cours, c'est même pas elle qui la corrige, fait que c'est une autre chose.
Ah oui, ça, je trouve ça dommage, parce que tu sais pas pour qui tu écris. Puis moi quand j'aime ça faire mes rédactions, mes essais, j'aime ça quand je sais la personne à qui je m'adresse. Ça change la façon que j'écris, veux pas.
Pour reprendre un certain concept de Marx, hein, la déshumanisation du travail à la chaîne.
aïe, parle-moi-en pas. Mais c'est vrai, Marx, ce que je trouve intéressant de tous ses écrits, c'est justement ça qui souligne l'aliénation du travail. Mais les gens qui étudient Marx puis qui regardent l'histoire puis là ils réécrivent l'histoire selon une conception matérialiste de l'histoire, comme quoi c'est le mode et l'économie, le mode de production et l'économie qui dictent l'action de l'être humain. Ce que je trouve qui est totalement faux, ou ben peut-être approximativement un peu vrai.
Mais en même temps, pour reprendre les paroles de M. Thomas de Coninck, hein, il n'y a pas un animal économiquement pur. Hein. L'humain n'est pas... Il n'y a pas aucun humain économiquement pur.
Ça veut dire quoi, économiquement pur?
Ça n'existe pas, un homme économique. Un animal économique seulement basé sur une valeur monétaire ou une valeur marchande.
Non, c'est ça.
C'est un mouvement qui s'implique parce que c'est un concept.
Oui, c'est sûr. Mais en même temps, il faut déterminer un peu c'est quoi qui motive l'être humain. C'est-tu l'argent ou c'est les idées? La matière ou les idées?
La motivation même, ça c'est quelque chose de... C'est quelque chose qu'on se pose comme question. Là. Ça rappelle beaucoup de conversations qu'on a eues, Yann.
oui, mais ça revient toujours au même point.
La motivation, c'est crucial. On va se le dire, parce que si motivation n'est pas, quel est le but de? Hein?
Mais ouais, c'est... Ben, dans le fond, ça, je pense que ça en prend de la motivation, puis surtout à l'école. Moi, je trouve que le monde, il étudie pas assez la motivation scolaire. Puis les gens, même à l'école, les universitaires comme toi, comme les gens de notre classe, ils écoutent pas assez leur cerveau quand ça vient à étudier puis à avoir de la motivation scolaire.
Ben, c'est ce que tu me parlais, là, parce que là, t'es, si on revient à un concept là, qu'on a déjà parlé, toi puis moi, t'es, t'es, si la motivation est reliée à l'intérêt, puis que là, l'intérêt lui-même en tant que tel, dans le fait d'apprendre, ben, t'apprends pas nécessairement que des choses qui t'intéressent. Donc, la motivation ici, elle fluctue dans le contexte éducatif. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je pense qu'au final, la vie n'est pas que plaisir. Là. Il y a certaines déceptions, mais pourtant, qui font en sorte que tu peux passer au travers. Là.
Ah oui, c'est ça. Mais par exemple, imagine si on se faisait juste suivre notre motivation et notre intérêt. Radicalement, uniquement suivre notre intérêt à l'école.
Mais comme j'ai déjà dit aussi, je pense que ça peut pas se faire dans un contexte éducatif de ne seulement que suivre sa motivation et ses intérêts. Au sens où c'est facile de s'égarer dans le divertissement qui est omniprésent de nos jours, il faut le compter. Le divertissement qui est partout, l'accessibilité à l'Internet, les service streaming, les envois dans les jeux,
Candy Crush, tout.
Ben ouais,
tout le temps.
C'est tout le temps, là. Il y a
Netflix.
Notre société, c'est encadré dans le divertissement.
C'est nouveau, ça.
Ben, c'est pas nouveau, en fait. C'est pas nouveau. Si tu regardes les années 20, on a commencé à avoir justement cette espèce de
boom
économique.
Les années 20, c'est nouveau.
Ben, les années folles. Non, mais... Ben oui, c'est nous, les années 20.
OK, non, mais...
les années 1900.
Une différence... De temps dans ma tête. Moi, je pensais à l'échelle de l'évolution biologique de l'être humain. Les années 20, c'est hier.
Ben oui, mais oui, c'est hier, là, sur l'horloge de l'humanité, là, mais sur l'horloge postmoderne, je sais pas, contemporaine.
Ouais.
Je sais
ouais,
pas,
c'est
là,
sûr,
on va évoluer, mais à partir de, t'es comme, mettons, si je te parle de 1920, là, quand on parle du Titanic et tout, gros retour à justement le divertissement, hein, on entend beaucoup, t'es un libéralisme économique, social, il y a beaucoup de libération après l'après-guerre. Là.
Ah oui.
Donc la Première Guerre mondiale, ça a amené un, une joie de vivre, une joie de dépenser, une joie de se divertir, hein, parce que la vie n'est pas, la vie est peut-être vaine, mais au moins j'y penserai pas.
Mais c'est vrai ça qui se passe aujourd'hui. Les gens ils pensent, ils regardent Netflix et ils jouent au jeu, puis.
Puis après, on chiale.
Ça prend plus en plus de place.
Puis après, on chiale, hein, parce qu'on n'est pas satisfait.
Non, mais c'est ça.
Là, mettons, là, on peut se le dire. Là, c'est, mettons, là, Netflix. Là, est-ce que tu es un abonné de Netflix, Yann?
Malheureusement, non, mais...
Malheureusement, tu as quand même rajouté malheureusement. Je trouve ça paradoxal dans la manière que tu veux amener ça.
Ouais, c'est sûr. Mais... OK, ouais, dans le fond, pas malheureusement. Bien heureusement, non. Mais ouais, parce que je trouve que, tu sais, oui, ça, c'est comme une addiction. C'est pareil comme la cocaïne. Genre. Mm. C'est des habitudes qui... restent pendant longtemps. Puis je trouve qu'il y a une alternative à ça, selon moi, puis c'est l'école. C'est apprendre, c'est lire des livres. Puis ça, ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais balancer la stimulation de Netflix si tu ne suis pas tes intérêts, genre.
Mais c'est parce que quand on y pense et tout, c'est parce que Netflix, le fait de regarder quelque chose, on aime ça regarder. Le monde autour de nous est beaucoup bâti par le regard. Par l'observation visuelle.
Ouais.
Puis Netflix, et donc, mais là, Netflix est un très gros... c'est encore plus vaste que ça. Là, je veux dire, juste la télévision, les rayons cathodiques. Mais ça, ouais. C'est qui est plus utilisé de nos jours. Là. Mais en tout cas, avec les nouvelles technologies, peut-être qu'il y en a qui ont certains encore. Vous le direz à la maison, je ne sais pas, appelez-nous.
mais... Appelez-nous. 418-656-2215.
Donc, voilà, les rayons cathodiques. Mais donc, c'est quand même puissant le fait de voir. Hein, peu de monde se réfléchissent à ça, mais le fait de voir, et donc non seulement voir, entendre, tu sais, regarder la télévision, c'est aussi s'y impliquer. C'est un certain mouvement, donc auditif, visuel... Pas nécessairement complètement cognitif, là, dépendamment le niveau de ce que tu regardes. Là. Des fois, il y a des choses
cognitif.
Que... Ben oui, c'est cognitif dans l'approche d'eux, mais t'es à un certain niveau, tu sais. Parce que tu peux te mettre sur un espèce de camp, comme on dirait, un cruise control cérébral, là.
Quand tu regardes de quoi. C'est cognitif quand même.
Ben oui, parce que ça fait appel à l'élément, tu sais, même de l'implication. On se comprend là-dedans, là. Mais donc... Il y a quand même plus de c'est un stimuli des stimulus, non, un stimulus.
Oui, ça je ne sais pas, hein. Je sais pas en français, hein. Je pense que c'est des stimuli. Je pense qu'il y a les deux, mais en tout cas je sais pas.
On va dire des stimuli, corrigez-nous.
Corrigez-nous si on n'est pas correct. Faut même regarder quand on
regarde ça pendant ce temps-là. Donc, c'est ça, au final, il y a beaucoup de stimuli, je vais dire ça de même, c'est une utilisation appropriée.
Stimulus.
Un stimulus?
Ouais.
Un stimuli des stimulus.
Ben non, c'est un stimulus des stimulus.
Ben non. Des stimuli. Un stimuli des stimulus. Allez, sur le site de l'Office de la langue française, attention, là. C'est sérieux, là.
Stimuli.
Donc, stimuli autour d'un...
stimulus.
OK, mais stimuli est autant singulier que pluriel?
Ouais. Mais stimuli peut être au pluriel ou stimulus peut être au pluriel.
Mais est-ce qu'on peut dire un stimulu dans ce cas-là?
Non, c'est un stimulus.
OK.
Mais ouais.
OK, bon, ouais, c'est, en tout cas, grosse parenthèse, grosse bulle.
Ah bah oui, grosse
parenthèse. Mais pour en revenir au sujet, donc, il y a une implication, on veut pas, par rapport à la télévision, qui t'apporte des stimulus... Hein? Auditif, visuel, qui implique une certaine attention, mais si tu peux te mettre, là, comme je disais, là, sur un cruise control cérébral, là, si tu écoutes de quoi de léger, là, t'es, évidemment, tu écouteras un documentaire, tu essaieras de comprendre, de faire des liens, tu vas essayer de te construire de quoi, mais au final, le divertissement par l'écran, ça l'envoie beaucoup de signaux qui sont beaucoup plus captivants. Puis qui vont beaucoup... c'est toi, là, d'ailleurs, peut-être avec tes livres de neurosciences pourront me l'expliquer, mais que, de ce que j'ai cru comprendre, hein, aussi, là, je veux dire, apprendre avec une pincée de sel, là, si jamais... si jamais tout ce que j'affirme n'est pas nécessairement vrai. Oh, mais qui serait pourtant relié au plaisir, de ce que j'ai pu comprendre.
Ah hein? Oui, tellement. C'est la même sécrétion de dopamine que tout acte. Mettons que quand avant, les hommes chassaient les animaux, puis là, je vais dire mammouth, mais c'est peut-être pas vrai, mais ils mangeaient de la viande, puis quand il y avait de la viande, ben miam, 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 ben t'avais une récompense de dopamine parce que t'as réussi à avoir... à subvenir à tes besoins physiologiques, puis t'as travaillé fort pour le faire.
Est-ce que c'était l'action de tuer le mammouth qui te ramenait de quoi, ou c'était deux, le fait de deux. Manger de la
c'est
viande?
C'est l'action de chercher, puis mm-hmm. c'est la récompense de le manger qui est à la fois alimentaire et dopaminergique. Mais c'est la même chose aujourd'hui, mais sauf que les gens, pour avoir de la nourriture, ne font pas d'efforts. Ils font juste appuyer sur un bouton puis se le faire livrer à la porte. Donc, ils ont quand même à faire un travail pour avoir de la dopamine qui est nécessaire à la survie. Fait que qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, soit ils regardent Netflix, ils font de la cocaïne, ils boivent de l'alcool, ils vont faire du jogging.
Ça va se perdre.
Ou sauter en bas d'un avion avec un parachute pour avoir de la dopamine.
Ou sans parachute. Il y a aussi une pratique, quelques années, là, de lancer son parachute avant, puis après de se lancer en bas. Je sais pas si t'avais vu...
OK, je pensais que tu faisais une joke comme en... si... Ouais, tu peux aussi te suicider pour avoir de la... Non.
Mais...
il saute,
à ne pas faire à la maison, s'il vous plaît.
Non, mais il saute, il met le parachute avant, puis après ça, il saute, puis il l'attrape.
Ouais, c'est ça, il lançait son parachute en bas d'un avion. C'était une pratique aux alentours de 2005, je pense, au Japon, que ça a commencé, s'il y a de quoi, un sport extrême, en tout cas, à vérifier. Il me semble que j'ai déjà vu ça passer. Apprendre avec un grain de sel,
encore une fois. C'est ça.
Mais il me semble que c'était quelque chose que j'avais déjà vu. C'est ça, des gens qui lançaient leur parachute, se lançaient en bas, essayaient de l'attraper. Puis de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu des accidents. Hein. Donc je sais même pas si la pratique est bannie en ce moment même. Mais personnellement, si je devais sauter en parachute, c'est pas ce que je ferais. Je garderais mon parachute bien ancré sur mon dos.
Moi, je sauterais pas en parachute.
Point.
C'est tout. Ben, je...
Plus parachute ou bungee? Mettons que t'es obligé.
Ouais, bungee.
Eh ben, je sais pas, moi, je dirais avec le parachute. Le bungee, je sais pas, je pense peut-être que j'ai trop éclaté d'élastique dans mon front pour réellement me sentir en sécurité avec un élastique.
Ouais, c'est ça. Mais non, mais moi, je trouve que je suis en train dans ma vie de faire genre... de juste suivre ce que la recherche de dopamine uniquement. Je fais juste ce qui me rapporte
à la dopamine.
De la dopamine, genre. Okay. C'est comme puis là je me rends compte que je peux faire ça à l'école aussi. Puis suivre juste étudier juste ce qui m'intéresse en fonction de la dopamine qu'elle me permet.
Qu'elle te procure.
Procure, c'est ça, je voulais dire provide mais c'est pas en français.
Mais les franco-ontariens, on vous excuse.
Les franco-ontariens.
On a pensé aux franco-ontariens.
À quand le Québec libre?
À quand le Québec libre? Quand que le Québec...
Ça c'était un,
comme diraient les franco-ontariens, un sharp left.
Ah ouais. Mais on continue ça sur un high. J'ai envie de mettre une toune avant qui s'appelle Champs-Élysées de NoFX. Écoutez bien ça.
Oh, Champs-Élysées.
Olé, nous sommes de retour à Radio Révolution au Chis 94.3. Hey, j'ai inventé.
C'est une belle intro, ça, pour vrai. Je pense que ça aurait la garder. Le loup, là. Disons, ouais, c'était capable, là.
J'ai été pris par surprise par la fin de la chanson qui dure non seulement, qui dure un petit 2 minutes seulement. Mm. Puis là, mais c'est en français, ça? Comment ça, c'est en français? C'est des anglophones qui chantent en français? Les anglophones, ils n'ont pas de.
T'es-tu en train de gatekeeper le français? C'est
ça. Non, non. Non, mais on se met. On allait vers la conversation du souverainisme. À quand le Québec libre?
À quand le Québec libre? Le Québec va être sur la traque du Québec libre quand il va pouvoir réconcilier son passé, quand il va pouvoir faire le pont entre le Québécois postmoderne et le Canadien français d'antan. Puis ça va passer. Là, je sais que tu vas t'opposer à ça, Yann. Mais ça va passer par la réhabilitation de Maurice Duplessis en tant que personnage fondamental dans la création du Québec. C'est un gros point. Sacré okay. Maurice Duplessis et sa grande noirceur qu'on a essayé.
Et ses lois du cadenas.
Oui, ses lois du cadenas, c'est taper sur les artistes.
Et ses tapages sur les syndicats.
Vendre nos ressources pour des scènes. Mais en tant que tel, c'est. Maurice Duplessis, pour vrai, c'est un. Ça a été le premier ministre le plus réélu du Québec. Premièrement, là, je vais commencer ça de même. Puis de se baser uniquement sur le fait que Maurice Duplessis aurait n'aurait que été corruption, donc c'est pour ça sa réélection, là. Mais ça serait prendre le peuple pour un cave. Donc, parce que, mais il est revenu comme 5 fois, là, genre, mais c'est parce que le monde ne savait pas voter. Mais ça serait prendre le peuple pour un imbécile.
Ouais, mais.
C'est pour vrai. Tu
peux pas. OK.
Moi, je considère ça comme vraiment réellement un argument. Tu sais, je veux dire. Puis, si tu compares les chiffres aussi, là. En passant, je me base ici sur un livre que j'ai lu. Hein? Donc, À la défense de Maurice Duplessis de Martin Lemay.
OK.
Quelque chose comme ça. Avec une préface du terrible Mathieu Bock-Côté.
Ben. OK. Ben. Ouais, mais
est-ce que je suis discrédité complètement, là?
Ah non, t'es pas discrédité, okay. Mais...
Parfait, je suis pas censuré encore.
Ben non, mais...
Parfait. Mais, voilà, on peut débattre dans l'idée de la chose. Hein. Je trouve que c'est quelque chose qui manque au Québec. Le débat respectueux, le débat courtois.
Oui, le débat démocratique.
Ouais.
C'est essentiel à...
Oui.
N'importe quel fonctionnement de la société. Les humains veulent débattre. C'est ça, selon moi, leur nature, parce que c'est ça qui... Des aides sociaux qui ont besoin de parler.
Ouais, mais c'est
la
ça.
La COVID,
ça,
les gens se rendent compte de ça.
On a besoin de se confier.
Ouais, puis aussi de valider ses opinions par l'autrui.
Oui, je suis d'accord avec ça un peu.
Mais
se créer des chambres à écho, des choses comme ça. Il y en a qui sont bons sur les pages, sur les réseaux sociaux.
Ah, mais les réseaux sociaux, c'est terrible. Moi, je sais pas lire ça. Là, je vois ça, puis là, ouf.
Ah là là. Certaines célébrités hein, devraient pas être célèbres. Mais ça,
comme
c'est
qui?
Autre chose.
De qui tu parles?
Ah, là, de plein de monde. Mais pour
de
en venir...
Côté...
pour en venir... Ah, OK. Non, c'est ça.
Bon. Non, mais c'est sa part.
Mais pour en venir, pour en venir.
Sur le débat.
Mais pour en revenir sur les tracks du débat, sur le Maurice Duplessis. Pourquoi, hein? Pourquoi je parle de Maurice Duplessis ici? Honnêtement, je trouve ça dommage. Que les gens ne réalisent pas l'importance même que Maurice Duplessis a amené au Québec. C'est lui qui, d'un certain sens, a créé notre autonomie économique, d'une certaine manière, par un deuxième... Tu sais, je veux dire, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, il a juste rajouté plus de taxes. » Ce qui est mal, parce que « taxation is theft ». Bon. Mais il a créé...
Ouais.
Mais il a...
Ben... Okay, continue, je sais bien. C'est un autre débat.
Mais il a... En tout cas, il a permis la dissociation entre pas nécessairement la dissociation, mais le crochet que le fédéral avait sur notre économie. C'est un peu lui qui a amené cette dissociation-là. Voilà, j'ai retrouvé le fil de mes mots. Par, justement, la taxe sur la vente. Puis c'est aussi... c'est aussi lui qui a amené le drapeau québécois, hein, qu'on célèbre. C'est sûr, puis, je veux dire, quand même un bon apport patriotique, là, je veux dire, envers le Québec. Il a amené aussi... une certaine industrialisation, une certaine exploitation de nos ressources par l'industrie privée, en fait, attirer l'industrie privée chez nous pour développer une certaine expertise. Là, après, est-ce que t'es... Je me positionne pas quant à savoir si c'était bon ou si c'était mal selon mes valeurs d'aujourd'hui. Moi, je pense que c'était nécessaire à l'époque même de Maurice Duplessis. Puis qu'au final, je pense pas que... Je pense que d'une certaine manière, on aime ça s'inventer des problèmes au Québec parce qu'on en a pas eu tant que ça. Où on essaye de se détourner du problème principal qui a été la tentative d'assimilation anglaise. Constante. Mais il n'y a pas eu tant que ça de problèmes au Québec. Comparé à maintenant, on s'est pas fait ravager par la guerre, on s'est pas fait. Il y a eu des épidémies là,
mais il y a eu quand même une grosse histoire de lutte syndicale, des plus grandes histoires.
Ben oui, mais parlons-en. Mais il y a pas eu. Oui, il y a eu des luttes syndicales, mais il y a eu des luttes syndicales dans tout pays qu'on considère aujourd'hui civilisé.
Ouais, ouais.
Mais
quant à aujourd'hui, le Québec libre, est-ce que c'est nécessaire pour une société idéale?
Ben, mais c'est parce qu'on se mutile dans notre identité collective. On est tellement insécuritaire, on est tellement entouré de l'insécurité identitaire qu'est l'origine québécoise. Puis justement, en fait, si on fait juste prendre les acquis de la Révolution tranquille, si on fait juste se recentraliser sur la Révolution tranquille, on se base sur rien. Pourquoi la Révolution tranquille est arrivée en tant que telle, elle-même? Ben, c'est par rapport à un fondement de valeur, à un fondement économique, à un fondement, un mouvement de peuple, à la survivance même de nos aïeux qui ont fait en sorte que cette entreprise-là a pu se faire, non seulement se faire, mais se faire d'une manière... relativement calme et pacifique, hein? on va se le dire, révolution tranquille. Moi, je condamne la violence. Je pense que les idées mènent le monde. Puis, on se rejoint là-dessus. On serait pas là.
Ça attend sur les idées?
Oui, mais oui.
Que c'est les idées qui mènent le monde?
Oui.
Genre l'idéalisme?
Ben...
Non, moi, je suis un matérialiste.
Ah,
je pense que la matière mène le monde. Tout se résume à des mécanismes physiques ou chimiques. Toute idée part d'un mécanisme physique ou chimique dans le corps, puis qui se manifeste dans le cerveau. Puis c'est ça
donc
qui
on a pas liberté.
Motive l'être humain.
Donc on n'a pas de liberté.
On a la liberté.
Non, on n'a pas de liberté. Si c'est tout est ancré, tout est chimique.
On est déterminé à chercher cette liberté. C'est une assumption, mais il y a plusieurs mécanismes dans le cerveau qui nous prouvent que, d'une certaine façon, on cherche toujours les mêmes... Nos actions sont déterminées par un certain nombre de mécanismes du corps, mais je trouve que très, très important à considérer.
Mais moi, je considère qu'en fait, de ce que tu me dis, c'est je considère que ça vient entraver même l'idée de la... du concept de la liberté, là. Parce que parce que la manière que je comprends ça, c'est qu'il y a un certain déterminisme biologique puis qu'on peut pas s'en échapper, là.
Oui, mais un déterminisme à innover et créer et socialiser.
OK.
C'est le fun d'être humain. Parce qu'on cherche toujours à innover puis à créer. Quand on veut pas marcher, ben on invente un cheval avec des quatre roues sur le côté qui fait vroom, 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 vroom pour aller à une place.
C'était une réduction de la création de la charrette. Imaginez deux personnes dans le croissant fertile au néolithique qui inventent la charrette. On va mettre un cheval avec des roues.
C'est ça. Mais il s'adapte. Un cheval avec des roues qui fait tchou-tchou.
Excellent, j'adore. Ouais. Je vais sortir de quoi? Continue à jaser de la vie, j'aime ça.
OK, ouais. Mais c'est ça, mais je trouve que, tu sais, c'est le fun de dire « Ah, faut retrouver nos origines canadiennes-françaises », mais tu sais, en même temps, c'est quoi le Canada? C'est quoi la langue française? C'est quoi l'identité, la culture? C'est toutes des idées, c'est pas du matériel. Tu sais, tu peux pas toucher au Canada. Tu peux pas toucher à... Tu sais, le Canada, c'est un consensus social. C'est rien de matériel.
OK, ben je comprends ce que tu veux dire dans ce cas-là, mais en tant que tel, je veux dire, qu'est-ce qui est réel, d'abord?
Qu'est-ce qui est réel? Ben les molécules, le matériel, la chimie, le bureau que je touche, la dopamine dans mon cerveau.
Ça, c'est réel et rien d'autre.
Ça, c'est réel. Ça existe dans le monde matériel. Mais... Tu sais, le Canada, ça existe dans le monde des idées. C'est un consensus social.
Ah, OK.
Oui, oui. Mais je trouve que...
Fait que là, le lien que tu me disais entre la matière et le Québec libre, c'était...
Ben, le Québec libre, c'est dans le sens que... Tu sais, est-ce que vraiment un Québec libre, ça va faire une société heureuse? Parce que l'être humain... Il n'y a pas nécessairement besoin de ce consensus social.
Mais c'est parce que l'être humain, pour l'instant, il y a évidemment que quand tu es comme humaniste et universaliste, tu veux pas qu'il y ait une volonté de. Il y a une volonté de s'émanciper, de se regrouper, de se protéger, de se parvenir en tant qu'humain, hein, dans son humanité même. Mais c'est malheureusement pas tout le monde qui pense comme ça. Puis dans...
OK, dans le sens que les êtres humains, selon ta théorie, c'est qu'ils sont naturellement mauvais.
Pas qu'ils sont naturellement mauvais, c'est que c'est... Non, j'irai pas là-dedans. J'irai pas dans la nature humaine là. Parce que la nature humaine, j'ai pas encore... J'ai pas encore, je pense, eu assez de cheminement dans ma pensée.
Je pense qu'aucun être humain peut prendre des conclusions par rapport à la nature humaine.
Non, mais
c'est
effectivement.
Genre impossible. C'est un des plus grosses énigmes.
Ben oui, c'est une des grosses énigmes de la vie, là, même. Là. Mais je pense par rapport à... Voyons, c'est où est-ce que j'en étais? Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est rendu là. Puis en fait, ça passe par l'éducation. Ou par l'ennemi commun, hein, un anti...
Ouais, mais comment on a un ennemi commun?
Une anti-humanité qui viendrait par des extraterrestres ou quelque chose. Mais ça, c'est autre chose.
Hein, ouais, non, mais il y a beaucoup de monde qui pense comme ça, mais je suis pas d'accord. Je pense que, tu sais, un ennemi, ça s'est créé par quelqu'un.
Ouais, non,
personne déteste un autre... Personne déteste les Anglais. Les gens détestent les Anglais pour une raison.
Oui... Puis souvent, c'est valable. Non,
c'est pour ça notre conversation. Ben,
c'est une blague. Je déteste pas l'anglais en tant que personne. L'anglais, tu sais, il est correct. Là. Moi, j'ai des amis anglophones que j'adore et que j'apprécie. Ça fait 2 ans que j'étais en Ouest canadien, comme je t'ai plusieurs fois dit. Moi, j'ai rencontré du monde fantastique. Tu sais, sur une échelle individuelle, l'anglais n'est pas dérangeant. Là. L'anglais en tant que personne ici. Là. Mais l'anglais en tant que cadre social, c'est gosse. Hein?
Mais ouais. Non, mais c'est ça qu'en tant que aide sociale, mais c'est sûr que, genre... pas les Anglais. Les Anglais, ils nous ont coupé notre fil de parole. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ben...
Bref.
On en continuera cette conversation-là sur les anglophones après la pause. Vous êtes au Chiz 94.3 et vous écoutez Radio Révolution.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis, 14h, sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Une nouvelle scène pour les artistes émergents ouvre ses portes à Québec. Le Palais Montcalm vous invite chez Madame Bellé. Une salle feutrée, un lieu chaleureux, une ambiance originale, un espace lounge au cœur de la place Diouville. Pour célébrer l'ouverture, 6 spectacles gratuits mettant en vedette des artistes de Québec. Réservez vite vos billets gratuits au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm vous souhaite la bienvenue chez Madame Bellé.
Why can't you say- c'était la toune Hope de Descendants. Merci, merci beaucoup au band Descendants. Merci, ça veut dire quoi, Hope? Ça veut dire espoir.
Espoir.
Qu'est-ce que... Il est où l'espoir dans notre monde? Il est où le progrès? Il est où l'ère du progrès?
Le show progrès à est lundi. Mort. Non,
le progrès est mort, man.
Mais c'est quoi? C'est le show du lundi? On fait une de la pub? Là, c'est...
Si... Non, mais non. on fera pas de pub pour un show qui n'existe plus.
Ah, il n'existe même plus. OK, c'est... le progrès est mort, gang.
Le progrès est réellement mort.
Le progrès est réellement mort.
On est rendu qu'on lit du Nietzsche.
On est rendu qu'on lit du Nietzsche et du Schopenhauer. Aïe, aïe, aïe. On rentre dans un monde...
De tristesse de la vie?
De tristesse de la vie. De tristesse.
Un monde sans amour.
C'est ça, j'ai découvert ça. On aime ça, les livres. J'ai découvert ça récemment à la coop ici, juste en haut de nous.
Ouais, hein?
Au final. par monsieur Bernard Bourgeois. Voilà. Il s'appelle littéralement Bernard Bourgeois. Je trouve ça très.
Très bourgeois.
C'est un nom. Là.
Il n'est pas Bernard Paulette.
Bernard Bourgeois. Voilà, c'est donc Schopenhauer et Nietzsche. Donc, du non confortable au oui déchirant à la vie. Je trouvais ça quand même assez pertinent dans la conversation qu'on avait tantôt par rapport à la vie. Lis le quatrième de couverture ici, donc on a... ça va comme suit. Le 19e siècle s'est politiquement ouvert dans l'opposition extérieure ou abstraite du oui traditionnel et du non révolutionnaire à l'histoire. Philosophiquement... Mais selon une vision non réconciliatrice et hegelianisante de lui-même. Ah,
pas
oui,
Hegel.
Pas encore Hegel.
Vas-tu former ça? Hegel.
Donc, philosophiquement, mais selon une vision non réconciliatrice hegelianisante de lui-même, il s'achève dans la contradiction intérieure ou concrète du non, mais confortable, de Schopenhauer et du oui, mais déchirant, de Nietzsche à la vie. Donc, en gros, une petite étude, un petit essai comparatif entre les philosophies donc nihilistes, donc de Nietzsche et de Schopenhauer, dans la négation même de l'être, la vie est vaine. Dieu est mort, gang, comme okay, a dit. Ouais. Dieu est mort. Donc, voilà, je trouvais ça super pertinent. C'est parce que, tu sais, au final, là, si on se dit, mettons, je sors complètement du livre. Là, je l'ai tassé, le quatrième de couverture est lu. Donc, on embarque philosophiquement sur la vie. Si la vie n'a pas de sens,
y
a-t-il un sens à la vie?
Ben oui, il y a un sens qui est très clair. C'est la créativité et l'innovation.
Mais pourtant, on est. Mais en tant que. Ça, je sais que je vais me faire haïr quand je vais dire ça. Mais les humains, on n'est pas des êtres si créatifs que ça.
Hein? Ben non!
Laisse-moi aller dans cette affaire-là. C'est. OK, peut-être par rapport à l'esthétique. Peut-être par rapport à l'esthétisme.
Ouais, mais attends.
On va dire ça, okay, l'esthétisme. On n'est pas si créatifs que ça dans le sens où on aime les mêmes choses. On était attirés en tant que...
Oui, mais c'est normal. C'est une fonction biologique de l'être humain.
Oui, réconciliatrice, regroupante.
C'est pour ça qu'il y a plusieurs... du marketing publicitaire maintenant qui se fait sur à quel point, mettons, une personne est belle selon les normes sociétales. Il y a un algorithme qui le pop au-dessus, au front page de TikTok.
Ben oui, puis là, après, quand on va faire un film avec les Chris Hemsworth de ce monde, ben après, on va en faire, pourquoi pas, 20 sur le même concept.
Ah oui, mais... Non, mais...
Hein? Merci, Marvel!
Ah oui.
Non, mais en tout cas...
Mais tu sais, ça, c'est pas de la créativité. Mais, okay. La créativité, vient de briser des contraintes.
De briser
toujours.
Les contraintes, OK.
Tu regardes n'importe quel auteur dans son domaine littéraire, il brise des contraintes. Il y a des règles et cet auteur va pousser les règles à son maximum.
Est-ce qu'on a besoin de règles?
Oui, oui, on a besoin de règles pour les briser. Puis il y a toujours des règles dans la nature. Tu veux pas marcher longtemps? Tu te fais un cheval avec des roues qui fait pout-pout-pout. Sont là les règles, puis on est programmé à les briser.
OK.
Et c'est ça, être créatif.
Est-ce qu'on va arriver
moi?
À un point de non-retour? Un point où est-ce qu'il n'y aura plus de règles?
Je pense qu'on est en ce moment dans le point de non-retour.
OK.
Mais là, oui, oui.
Il n'y a plus de règles.
Ben, il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles.
Ah, ben, si on est au point de non-retour, il y a plus... Au point de non-retour, dans le sens de notre élancement vers la cassation des règles,
Ah oui, mais...
OK, mais la
règle... Il
ne
va jamais être brisé, il va toujours avoir des règles.
OK, c'est ça. C'est ça,
c'est
mais en fait,
c'est
ça ma question,
la métaphysique.
Là. OK. Il va éternellement avoir des règles et donc éternellement on va devoir briser des barrières. Oh oui. On est condamné à briser des barrières.
Bah oui, puis il va toujours avoir des barrières à briser. C'est ça. Mais l'être
humain.
Je suis d'accord avec ça.
D'un certain
le jour où il n'y aura plus de barrières à briser, ça sera l'extinction de la race humaine. Lorsque la conscience de l'être humain ne sera plus.
Je te rejoins. Mais je te rejoins dans cette conception de mots-là. Je pense que je l'avais peut-être pas analysé cet enchaînement de lettres-là.
Ah ouais, mais avec cet enchaînement de lettres-là. Ça donne de l'espoir un peu parce que oui, tu sais, ça te montre que ben, le monde, il peut toujours changer puis on peut toujours s'adapter au monde. Puis je pense qu'avec la crise environnementale et politique qu'on vit en ce moment, ben il y a de l'espoir parce que les êtres humains, parce qu'ils sont des êtres qui s'adaptent.
Elle est où l'espoir? Excuse-moi de t'avoir coupé dans ton concept. Mais
elle est où l'espoir?
Elle est où l'espoir?
Moi, je pense que je le sais.
Tu penses que tu le sais?
Oui, ça a toujours été ça, puis ça l'est encore. Vas-y. C'est la compréhension du monde et l'adaptation à celui-ci.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que l'espoir, veut pas, est en l'homme lui-même, d'une certaine manière, à pas comprendre toujours, pas et toujours. Concevoir ce monde-là pour oui. briser sa barrière au final, oui. donc poursuivre son sens à la vie, selon toi?
Oui, c'est ça. Mais je sais pas que l'espoir est toujours dans l'être humain.
Mais parce
il y a plusieurs fatalistes. Il y a des Nietzsche et des Schopenhauer.
Ben ouais, il y a des Nietzsche et des Schopenhauer de ce monde.
Il y a des gens qui se suicident, même s'ils ont tout l'argent du monde.
Mais voilà. Mais c'est pour ça un peu que tantôt, quand que je rejoignais le sentiment universaliste humaniste que je parlais, qu'il y avait des gens qui sont pas, au final, rendus là, mais... pas nécessairement de manière péjorative, hein. Ça prend toutes sortes de gens pour former une société. Mais je pense que c'est par l'éducation qu'on va s'en sortir.
OK.
Puis que c'est par l'éducation pour ramener une certaine compétence, une certaine dignité à l'humain même qu'on va pouvoir justement se trouver cet espoir-là, peut-être.
Ah, ben,
se rallier en tant qu'humain sans débriser les règles de la méfiance de l'autre. Voilà.
Okay,
se rassembler en tant qu'humain. En passant un petit parallèle, voilà, Netflix. Hein, sur, allez écouter L'effroyable chose de John Carpenter, film de 1982.
Ah ouais,
voilà,
ah, j'aime
sur très très conception hollywoodienne et lovecraftienne de la méfiance humaine, voilà.
Ah ouais.
C'était ma petite plug publicitaire, John Carpenter. J'attends
plug pour Netflix.
John Carpenter et Netflix, j'attends mon chèque.
Moi j'essaie de plus en plus d'éviter Netflix et les réseaux sociaux, puis je pense que c'est en train de work en ma faveur. Travailler en ma faveur. Là, l'anglicisme, là. En tout cas, on est en train de se faire remplacer. C'est-tu la théorie du remplacement?
Du grand remplacement. Mais ça, c'est plus.
Ça aussi, c'est une chose que je comprends pas.
Mais ça, c'est les Français. Mais ça, je...
Genre, remplacement, je comprends pas c'est remplacement de quoi. Ouais, on va tous mourir.
J'ai pas assez étudié ça. S'il y a quelqu'un qui voudrait nous appeler et en discuter,
parler du grand remplacement
et parler de la théorie du remplacement, de ce que j'ai cru comprendre, parce que ça fait quelques temps que je commence à suivre un petit peu plus les médias français de France.
Ah.
Puis là, de ce que j'ai cru comprendre,
c'est Zemmour.
Hein?
Zemmour.
Est-ce que je lis Zemmour?
Non, en tout cas, non.
Ben, en tant que tel, Éric Zemmour, oui, quand même assez. Mais... Ben, très présent sur la scène française présentement. Ben, Éric Zemmour, moi je suis pas un analyste français, là, puis je ne suis qu'initié depuis peu, d'accord? Donc, c'est une conclusion très, très rapide de ce que je vais dire. Un survol même. Okay. Je veux dire, de beaucoup de choses. Puis je veux dire, je me suis pas affronté aux théories, je me suis pas baigné là-dedans, je me suis pas encore complètement lancé dans ce sujet-là.
Okay, ouais.
De ce que j'ai cru comprendre et voir.
Ouais, vas-y, man.
Éric Zemmour, il dit des choses intéressante, mais de la mauvaise manière. Puis...
Moi, je pense qu'il dit des trucs vraiment pas intéressants.
Ben,
puis...
je veux dire, à chacun... Tu sais, je veux dire, ça va rejoindre du monde, parce que veux pas, il y a quand même... En tout cas, de ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'il est en train de monter en popularité dans les sondages pour être le prochain président français.
C'est un populiste?
Mais, ben oui, mais écoutez, je veux dire, comme les populistes de ce monde.
Mais c'est pas bien, c'est un réactionnaire. Il s'oppose au progrès de la population. C'est quoi? Je suis pas d'accord avec sa mentalité du tout, puis je trouve que ce qu'il dit, c'est
ben là, je veux dire, moi, j'ai juste vu un survol. Là. Moi, je considère que de ce qu'il parle est intéressant, puis je ne peux pas reprendre complètement ce que Éric Zemmour affirme, parce qu'il y a des choses que je trouve qu'il affirme de la mauvaise manière d'une certaine part, mais aussi que tu sais qui se rattacherait pas à ma propre réalité. Je peux pas, je suis pas un Français, je vis pas en France. Ouais. Je veux dire là, culturellement, sommes-nous cousins? Ou est-ce qu'on en est détaché, puis on sait comme... Tu sais, on est rendu bien ancré dans la culture... dans une certaine culture... dans une mixité franco...
ontarienne.
Pas nécessairement franco-ontarienne, mais tu sais, il y a eu une tentative d'assimilation, hein, tu sais, je veux dire, ouais. On est dans un système
mais
anglo-saxon.
En même temps, ça ferait quoi si on aurait été... assimilé.
Si on avait été assimilé.
Ça se peut-tu? Si on avait été assimilé dans notre vocabulaire, avec les six jarrets. Hey, en tout cas, non, on continue.
Non, mais c'est assez facile. Là. C'est les six mangent les raies.
Moi, ouais, je sais, mais écoute.
Écoute.
C'est la vie. Hein?
On fait
tous des erreurs.
On fait tous des erreurs, je te pardonne, Yann.
Ah ouais.
Je te pardonne.
Pardon. Pardon de Dieu.
Oui. Je suis comme ça, je suis c'est dans ma bonté même.
Attends, mais là, de quoi on parlait?
On parlait d'Éric Zemmour, on parlait de théorie du grand remplacement, parlait de philosophie de vie, on parlait de... Yann, c'est ce que j'apprécie beaucoup de nos conversations, c'est que ça part de tout sens, tout côté, parce qu'on est des passionnés même de la vie, de la connaissance, de la culture, de... Voilà.
Ah oui, mais on a quand même plusieurs désaccords sur un certain nombre de points.
Mais il y a toujours un respect.
C'est toujours respectueux.
Même si t'es une grosse chienne. Puis que...
notre conversation de comme 6 heures de long sur...
Oui.
La civilisation occidentale
est
celle qui a le plus tendu vers les valeurs humanistes.
Oui.
Cette affirmation-là a resté très longtemps dans ma tête.
C'est paradoxal, hein?
Non, c'est une équation invalide.
C'est une équation invalide.
Genre, c'est pas vrai, mais c'est pas faux non plus. Tu peux pas quantifier civilisation occidentale, tu peux pas quantifier valeurs humanistes, donc tu peux pas utiliser une variable qui est elle a le plus tendu, parce que le plus, ça implique une quantité. Et il n'y a pas de quantité au niveau des valeurs et de la civilisation. C'est inquantifiable.
OK.
Fait que je trouve que c'est... Ça allait rester longtemps dans ma tête, puis je suis arrivé à cette conclusion-là.
Y a-t-il des valeurs qui peuvent être au-dessus des autres?
Ah, mais je pense que, tu sais, les valeurs, ça n'existe pas.
Ouais,
on a toutes la même conception biologique, puis on va toutes avoir les mêmes... actions de base lorsqu'on prend en compte l'être humain hors de ses déterminations sociales et culturelles.
Ouais.
On a tous le même fonctionnement.
Est-ce qu'il y a des choses qui devraient prévaloir sur d'autres? Est-ce qu'il y a des valeurs qui devraient prévaloir sur d'autres?
Yeah. Moi, je sais pas qui je suis pour juger ça, mais je sais pas.
Non, c'est vrai que c'est très
mais continue,
individuel.
Mais continue, pourquoi tu me demandais ça?
Ben, je sais pas, je pense... mais c'était en tout cas... C'est, si tu suis les capsules vidéo hein, de Thomas de Coninck, philosophie de l'éducation, il a décrit... il y avait une partie sur décrire le nihilisme. Hey, j'ai mes théories de philo!
Ah ouais! Ah, oh, mais toi, t'achètes des manuels, hein?
J'achète certains
manuels. Moi, c'est une affaire que je comprends pas. J'achète pas de manuel parce que je trouve que ça rend tellement l'école plate.
Je pense...
C'est comme tout le savoir plate, ennuyant, mis dans un même livre.
Ouais, mais je pense que les manuels, c'est pas complètement bien, mais c'est pas complètement mal.
Ben, je pense que c'est complètement mal.
Moi, je pense pas que c'est complètement mal. Je pense que, moi, personnellement, je crois pas à la vérité pure. Je pense que la vérité est un amas de nuances. Parce que jamais un concept aussi vrai ne sera totalement exposé dans son idée même, dans sa conception même. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
Donc, la vérité, ça serait s'approcher par nuance de plusieurs angles.
C'est vrai.
Qui ferait en sorte que ça prend du monde à l'opposé de toi.
Oui.
Pour...
Exactement. Mais tu l'as pas dans le manuel. Tu sais, ça, c'est vrai. John Dewey parlait que le problème de la vérité, c'est que nous-mêmes, on crée la vérité selon nos connaissances antérieures. Ouais. Mais avec le manuel, c'est impossible de rejoindre par nos connaissances intérieures ce qu'on veut apprendre et la vérité qu'on veut trouver. Mais... parce que c'est tellement restreint et dépersonnalisé, décontextualisé, contrairement à aller à la bibliothèque et prendre un livre qui correspondrait et qui pourrait répondre à un questionnement que tu as dans le présent.
Ben, c'est parce que moi, je vais le voir ainsi. Le manuel, là, ça prend comme plusieurs manuels. Je baserais pas...
Une bibliothèque, donc.
Mais elle peut être restreinte d'un certain sens, mais jamais d'un certain sens, j'aimerais ça que mes étudiants ne se basent que sur un manuel.
Ça,
c'est quelque chose que peut-être que je vais changer d'avis, hein, comme toute personne change d'avis dans la vie en tant que telle. Mais pour l'instant, moi, Charles Dubois, là, présentement, j'aimerais ça que mes futurs étudiants, que je construis mes cours de manière à ce qu'il n'y ait pas seulement l'implication d'un manuel. La raison même, c'est parce que, justement, comme j'ai dit, si une vérité ne sera jamais mise à nu dans sa complexe totalité, ça prend des visions et des points de vue connexes, divers, variés, afin d'exposer du mieux qu'on peut cette vérité-là, et par extension, ça prend du monde à l'opposé de toi. Donc, j'aille pas ça parler avec toi, même si...
On est quand même à des même à si l'exposé. L'opposé sur plusieurs points, mais...
Ouais. Mais il y a des conceptions qui nous rapprochent, c'est différent.
Ah oui, 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 c'est sûr.
On se rapproche beaucoup, je pense, dans nos valeurs, c'est comment l'implication... C'est la méthode d'impliquer cette valeur-là.
Le comment.
Ouais. Je pense que c'est le comment. Puis je pense que je suis beaucoup plus dans comme l'abstrait idée générale. Puis je pense que t'es dans la révolution et l'action.
Ouais, mais la révolution... j'ai changé la façon que je voyais la révolution parce que je me suis rendu compte que...
Ah ouais? Depuis
le cours de vendredi.
Depuis le
non,
cours
non,
de
non, les cours de vendredi.
Ah ouais.
Genre le cours d'apprentissage et cognition.
Ouais.
Je me suis rendu compte, j'ai commencé à lire Paulo Freire, j'ai commencé à lire... Parce que je suis arrivé dans le cours, puis j'avais un livre de Noam Chomsky, un homme que j'admire de tout mon cœur, puis que j'espère qu'il va pas mourir, même s'il a 97 ans. J'espère qu'il reste un couple d'années.
S'il y a une certitude dans la vie, c'est que tout le monde va mourir une
fois. Oui, mais je veux pas que Noam Chomsky meure. J'ai peur qu'un monde sans lui... J'ai peur de à quoi aurait l'air.
Un monde sans Noam Chomsky.
Ouais. Ah oui. Mais hey, je suis arrivé en classe, j'avais des livres sur Noam Chomsky, puis là, la prof était comme « Ah ouais, c'est cool, là, c'est tellement quelqu'un d'important dans les sciences cognitives, puis il a fait du changement, puis il a fait... » Puis là, j'étais comme « Ah ouais! » Parce que je lisais pour ses écrits politiques, mais il a tellement écrit pour la linguistique, puis l'étude des langues, puis je trouve ça tellement
pour l'éducation en tant que telle.
Non, l'étude des langues pour déterminer la nature humaine, parce que les langues, c'est ce qui représente le plus la pensée, selon
totalement.
Lui.
Totalement. Ben oui, mais en fait, là, puis je vais affirmer ça directement, j'ai jamais lu du Noam Chomsky.
Tu vas capoter.
Puis probablement que c'est maintenant à lire et à mettre dans ma bibliothèque, mais moi, j'ai toujours affirmé, puis ça, c'est en fait, je l'ai découvert beaucoup justement en m'exposant aux Anglais, hein, dans mes 2 ans dans l'Ouest, mais la pensée est définie par ton langage. Parce que...
OK, la pensée est définie par ton langage.
Oui, la manière que tu penses est complètement liée à la manière que tu communiques. Parce que si le langage est modulaire, ça prend, exemple, une combinaison de tel concept et tel concept pour formuler cette idée-là, mais tu peux pas grammaticalement ou syntaxiquement écrire cette phrase-là ou faire ce concept-là de cette manière-là, ça n'existe pas. Il faut que tu choisisses les bons modules au bon moment. Et donc, cette pensée-là en tant que telle, la construction d'une pensée sera différente d'une langue à l'autre parce que ça prend un module différent.
Oui, mais on a quand même un grand nombre de propriétés dans la langue des êtres humains qui sont communes. Genre, il y a une syntaxe qui est quand même assez similaire. Il y a un pitch.
Oui, ben,
mais
c'est parce que
il y a des mots. Il y a, personne qui va parler en faisant genre. Hein?
Ben, de plus en plus, on essaie de l'uniformiser.
Non, mais ça a toujours, il y a toujours eu chez les êtres humains des propriétés communes du langage. Quand les Européens sont arrivés en Amérique, la langue était, ça sonnait quand même comme une langue. Tu sais, ils parlaient pas comme.
Non,
ça sonnait comme
que
des mots.
Tu moques du Swahili.
C'est pas le Swahili qui a des clics dans la langue.
Ouais, c'est quelle langue? Il y a une langue africaine qui a des, qui a des cliquetis.
Mais ça reste que dans
c'est
en varié, général.
Hein. Mais c'est non, mais c'est parce que
tous les langues ont des propriétés communes.
Oui, mais c'est parce que c'est ça. Quand tu dis que ça sonne humain, là, c'est sonner humain. Sonner humain, c'est la valeur de vouloir communiquer par l'acte du bruit, du son, de la parole. Parole qui sera modulée selon ton concept. Mais c'est ça l'affaire, c'est que si ta langue est modulée d'une certaine manière, par exemple un contexte d'isolement insulaire, une petite société qui vit sur une île, t'sais, qui est pas exposée à des invasions, à des mouvements, des flux migratoires humains, sa pensée ne se développera pas... pas nécessairement sa pensée, mais son langage... ne se développera pas influencé par rapport aux autres. T'es exemple là, dans la langue française aujourd'hui, on dit des mots comme tsunami, on dit des mots comme nénuphar, des mots qui pourtant ne sont pas français, mais t'es la langue, c'est parce que c'est construction.
Non, oui, c'est
puis,
ça.
Mais c'est ça. Donc, comme je disais. Il y a une tentative de plus en plus. Tu me parlais de la ponctuation tantôt, mais c'est sûr que l'humanité a tenté à un moment donné d'avoir une certaine uniformité dans sa ponctuation. Tu sais, je veux dire, il y a une utilité à certains signes qui seront faits différemment selon l'alphabet que tu te bases. Je sais pas si, il y a des signes, il y a des manières de. Il y a des guillemets anglais, il y a des guillemets français. Il y a plein de signes. Les hispanophones vont utiliser des deux points d'interrogation au lieu d'un, mais au final, c'est un point d'interrogation.
Oui, mais ouais, c'est ça. Mais ça reste que...
Il y a une tentative d'uniformité.
Ouais.
Mais en même temps, aussi, c'est parce que là, l'exemple que j'ai donné aussi, c'est parce que c'est comme deux langues d'origine latine.
Oui, c'est sûr.
Mais quoi que l'anglais et le français, les guillemets, c'est pas la même chose.
Mais,
en tout cas.
Mais pour revenir, tu sais, le cours de vendredi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé à parler. J'ai parlé à Lou Chomsky.
C'est vrai.
Il y a comme. Je trouve que ce cours-là, l'enseignante m'a tellement conseillé d'affaires à lire. J'ai découvert tellement d'auteurs qui ont complètement changé ma façon de voir le monde.
Ouais.
Puis moi, j'ai toujours. Je déteste un peu toujours les profs.
Donc,
ils sont jamais des mauvais.
Donc, radio-révolution, mais révolution modérée.
Ouais,
assez modérée, là.
Révolution, non économique maintenant, mais cognitive.
Ah, OK.
Genre dans le sens que c'est la seule propriété commune à tous les êtres humains.
Donc, les idées mènent le monde?
Oui, mais les idées sont quoi? C'est des résultats de mécanismes physique et chimique du corps. Mmh. Donc, c'est matériel. Alors que l'argent, c'est pas matériel. C'est du papier.
Concept,
le papier, c'est matériel. Mais la valeur de l'argent, c'est un consensus social.
Mmh.
Et c'est les êtres humains, biologiquement, sont tous identiques dans leur fonctionnement biologique.
Mais
donc,
c'est la
une
valeur.
Validation de l'humanisme.
Ouais, OK.
Puis ça, dans le fond, les valeurs, est-ce qu'il y a une valeur meilleure que les autres? C'est pour ça, pour répondre à ta question, ça me concerne pas.
Ben,
parce qu'on a tous
non.
le même fonctionnement biologique.
En tout cas, le nihilisme, il dirait que non. Qu'il n'y a rien qui prévaut sur rien. Mais si rien, si rien ne prévaut sur rien, tu peux très facilement justifier des actes atroces. Là.
C'est l'existentialisme. L'existentialisme, on va finir
là-dessus.
D'exister.
Ouf.
Donc, l'heure du progrès? Il n'y a plus l'heure du progrès? Ah non, ouais. Mais en tout cas, peut-être que demain, mercredi, à 22h, il va y avoir du progrès au Schiz 94.3. Vous avez écouté Radio Révolution. Merci!
Vous écoutez Schiz 94.3 FM à Québec.
Hey Pat! Qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
J'allais plutôt dire qu'ils peuvent tous nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?